Trigger warning, cet épisode parle de violence, de viol et d'agression sexuelle.
Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Pauline Verduzier.
C'est parti!
Des grands-mères confectionnant des cocktails Molotov, des femmes parturiantes cloîtrées dans des sous-sols, l'invasion de l'Ukraine interroge aujourd'hui la place des femmes dans les conflits armés, qu'elles soient combattantes ou victimes collatérales. Et on va se demander cette semaine ce que la guerre fait aux femmes et ce que les femmes font, disent et écrivent en temps de guerre. Mais d'abord, des news du féminisme.
Oui, d'ailleurs, c'est pas beaucoup plus joyeux puisque l'actualité étant actuellement focalisée sur l'Ukraine, en Afghanistan, pendant ce temps, les collèges et les lycées pour filles étaient censés rouvrir, mais les talibans les ont brusquement refermés mercredi 23 mars, quelques heures tout juste après le début des cours, violant à nouveau les droits des femmes et brisant l'espoir des jeunes filles de retourner sur les bancs de l'école. Donc ça s'est un peu passé en toile de fond ces derniers jours et la communauté internationale pourtant avait fait du droit à l'éducation une des conditions des négociations sur la reconnaissance des autorités du régime fondamentaliste islamiste qui est en place depuis août 2021. Et d'ailleurs il y a une petite manifestation, une vingtaine de femmes et de filles ont manifesté dans la capitale à Kaboul et malheureusement cette manifestation a été dispersée par les talibans.
Oui, alors une petite annonce pour vous préciser la sortie du nouveau numéro de Cosette, donc le magazine d'information généraliste, qui s'intéresse ce mois-ci à l'accueil des réfugiés ukrainiens et ukrainiennes, ça tombe bien, ainsi qu'à la présidentielle, évidemment, voilà. Et donc, vous pouvez le retrouver en kiosque.
Pour revenir au sujet de cette semaine, on parle donc de la place des femmes dans les imaginaires guerriers et aussi sur le terrain en temps de guerre. Donc, dans ce contexte très particulier d'un conflit armé, on a longtemps posé en fait les femmes comme des victimes et non pas comme des actrices ou des agentes agissantes d'un conflit. Et d'ailleurs, dans les représentations collectives, il faudrait avant tout les protéger en temps de guerre, en tant que force de travail reproductif et en fonction du rôle qu'on leur a assigné, qui est celui de porter des enfants. Donc ça, c'est un peu l'imaginaire qu'on a longtemps eu. Bien sûr, on va le questionner. Et on peut dire d'ailleurs que la philosophe Elsa Dorlin le montre bien dans son ouvrage qui s'appelle « Se défendre, une philosophie de la violence » où elle théorise ce sujet. Elle montre comment les femmes ont été exclues du droit d'autodéfense pour être plutôt constituées en « objet à défendre », avec des guillemets, par des hommes toujours soucieux de les dominer. Donc c'est un sujet qui va traverser cet épisode.
Oui, donc l'invasion du territoire ukrainien par l'armée russe a eu lieu le 24 février dernier, nul ne l'ignore. Et d'ailleurs, dans ce contexte, le pays a même été féminisé dans le discours russe comme une manière de le menacer, de le rabaisser avec cette phrase « Que ça te plaise ou non, ma jolie, il va falloir supporter ». Donc une phrase prononcée le 7 février dernier par Vladimir Poutine lors de sa conférence de presse avec Emmanuel Macron à l'adresse de l'Ukraine et de son président Volodymyr Zelensky. Et depuis le début de ce conflit, très rapidement, les femmes ont été mises en avant dans la médiatisation du conflit et celle de la résistance ukrainienne, car de fait, elles sont très actives. Certaines ont pris les armes et tiennent des checkpoints, font des patrouilles. Comme de nombreux Ukrainiens, des femmes se sont enrôlées dans la défense territoriale, même si elles n'y étaient pas obligées, contrairement aux hommes. Ces groupes de civils qui se forment sur le tas pour aider la force militaire, donc c'est ça la défense territoriale. D'autres femmes sont elles-mêmes volontaires dans l'armée, elles rejoignent les combats contre les troupes russes. D'autres encore œuvrent depuis la base arrière en participant à l'effort de guerre avec les moyens à leur disposition. Par exemple, elles font partie de celles et ceux qui cousent des filets de camouflage, qui confectionnent des cocktails Molotov ou des repas pour les soldats. Ça pose évidemment un certain nombre de questions sur les représentations de ces femmes, la manière aussi de documenter leur quotidien et leurs actions dans ce conflit qui a été extrêmement soudain, extrêmement brutal, même s'il faut rappeler que la guerre avait déjà commencé avant, en 2014, dans certaines régions du pays, notamment dans le Donbass. On y reviendra et plus généralement, on parlera de l'image, de l'iconographie des femmes en temps de guerre. Mais d'abord, un petit récapitulatif historique.
Historiquement, on peut dire que les femmes ont souvent été limitées dans les conflits armés à un rôle de soutien à l'arrière du front, un rôle de care, de l'infirmerie et des soins aux soldats en passant par la cuisine, ou alors elles ont aussi eu le rôle d'endosser de nouvelles fonctions pour remplacer les hommes à l'usine et au champ, par exemple, en leur absence, mais ça ne les a pas empêchées de prendre les armes également.
Oui, justement, on a trouvé des femmes depuis fort longtemps du côté des combats, du côté de la résistance. Évidemment, on pense à celles qui ont été reconnues très tardivement comme ayant participé à la libération, femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi les femmes du FLN pendant la guerre d'Algérie, comme Jamila Bouhired. Et en France, il faut savoir que les femmes sont admises dans l'armée depuis les années 80 et qu'elles sont environ 15%, ce qui est considéré comme élevé par rapport au reste du monde, mais ce qui reste quand même très peu. Et il faut savoir qu'évidemment, dans ce contexte de l'armée française, elles sont souvent victimes de discrimination et ou de violence dans ce milieu qui reste très masculin. C'est pas une surprise.
Oui, on peut dire un mot de ce contexte français, justement. On a une femme en France qui est ministre des armées, donc c'est Florence Parly. Bon, c'est assez symbolique, c'est intéressant, mais ça n'empêche pas la gestion calamiteuse de certaines affaires, notamment des affaires de violence sexuelle. Et ce, dès la formation des militaires, notamment dans les lycées militaires comme Saint-Cyr, où il y a eu plusieurs enquêtes journalistiques qui ont révélé que les violences et le harcèlement sexiste y étaient très présents et pas nécessairement sanctionnés. On peut également souligner qu'il y a eu une enquête interne dans l'armée française à la suite de la parution du livre La guerre invisible en 2014 de Julia Pasquale et Leila Mignano aux éditions Les Arènes en coédition avec Cosette. C'est un livre qui porte sur les violences sexistes et sexuelles dans l'armée qui documentait des humiliations, des faits de harcèlement sexuel et de viol subis par les soldats au sein de l'institution.
Pour nous, il y a une vraie problématique spécifique aux femmes. C'est ce qu'on explique dans le livre, notamment au début du livre. Il y a eu la fin du service militaire à la fin des années 90. Donc une décision politique prise par Jacques Chirac qui annonce la fin du service. L'institution militaire n'était pas du tout préparée à cette décision politique. Elle l'a souhaitée d'ailleurs peut-être même pas. Et donc on va assister à une arrivée en nombre et de manière accélérée, l'arrivée de femmes dans les rangs. On n'a pas préparé les gens à accueillir ces femmes-là et on est passé de 7% de femmes à la fin des années 80, enfin, en quelques années, de 7% à 15% de femmes. 48 000 femmes militaires. Donc c'est un vrai choc culturel parce que on remet en cause un bastion masculin, le monopole des hommes sur ce métier-là des armes aussi.
Il y a un exemple qu'on aime bien citer, c'est l'exemple de la Suède, en fait. Il y a de ça 5 ans, s'est retrouvée empêtrée dans les mêmes problèmes que la France aujourd'hui, avec un taux de harcèlement sexuel dans ses rangs qui était très, très important. Et ils ont pris le problème à bras-le-corps, enquête parlementaire immédiate, un an après, politique de sanctions vraiment très, très stricte, interdiction de mutation des femmes après dénonciation et soutien psychologique. Et en l'espace de 3 ans et demi, la vapeur était renversée.
En France, on peut aussi dire qu'il n'y a pas vraiment de recensement de victimes de violences sexuelles, en dehors du travail fait par des journalistes. Et d'ailleurs, le harcèlement sexuel est absent du code militaire. Et toutes ces enquêtes internes, en général, ne découlent pas sur des sanctions réelles.
Oui, à l'inverse, aux États-Unis, où les violences sexuelles dans l'armée sont aussi un véritable fléau. Pour prendre l'exemple de l'année 2013, il y a eu plus de 5000 cas recensés. Et donc, on se doute qu'il y a eu beaucoup plus de faits en réalité. Donc, en cette année-là, en 2013, le Congrès a été chargé d'enquêter sur le sujet dans l'US Army et sur la manière dont les femmes étaient traitées aussi par la justice militaire lorsque ces faits étaient dénoncés. Et ça a donné lieu à une loi, autant à tout commandant le droit de contourner une condamnation prononcée par une cour militaire, puisque c'était souvent le cas auparavant. Et donc, le texte prévoit également de faire passer au civil toute plainte qu'un commandant aurait refusé de traiter. Donc, ça aussi, c'est un classique. En outre, tout militaire ayant été reconnu coupable d'agression sexuelle doit désormais être révoqué ou au moins sanctionné. Donc on espère que c'est appliqué. Et alors qu'est-ce qu'il en est du côté des femmes civiles ?
Oui, alors pour revenir à la guerre en Ukraine, on voit que le conflit a tout de suite amené des articles et des questions sur la place des femmes. On peut d'abord parler des civils. Donc dans cette couverture médiatique des événements, on a beaucoup parlé des femmes et des enfants, que ce soit les femmes réfugiées, les bébés nés sous les bombes ou encore les maternités visées par l'artillerie russe. Ça se comprend d'ailleurs, puisque le fait que l'armée russe vise ostensiblement ces endroits est extrêmement choquant. Et d'ailleurs, ça met à mal le vieux poncif « les femmes et les enfants d'abord », ou l'idée en tout cas qu'être une femme protégerait des bombes, puisque parmi les personnes qui n'ont pas pu fuir, personne n'est en réalité protégé, puisque l'armée russe bombarde les villes en visant des lieux résidentiels, des hôpitaux, ou même des endroits où les civils s'abritent, comme le théâtre de Mariupol, où d'ailleurs des gens avaient tracé sur le sol le mot « enfant » pour qu'il soit vu par les avions russes, ce qui n'a pas empêché les Russes de viser ce théâtre.
Oui, les images glaçantes de bombardements de maternité, celles des sous-sols d'hôpitaux pédiatriques aménagés pour soigner des nourrissons, ont rapidement circulé un peu partout. Il y a notamment eu cette photo très frappante d'une femme enceinte blessée, évacuée sur une civière à la maternité de Mariupol au milieu des gravats. On a appris un peu plus tard que cette femme était finalement décédée après le bombardement de la maternité ainsi que son bébé. C'est une photo qui a fait le tour du monde. Elle a été prise par le photoreporter ukrainien Evgeny Malo Oletka, cas. Et il faut savoir qu'il y a une autre femme qui a été photographiée par la même personne et qui, elle, a survécu et a accouché. Il s'agit de la blogueuse ukrainienne Mariana Vichegerskaya, dont la photo qu'il a montrée en train de s'enfuir en pyjama par les escaliers de la maternité a également été très relayée. Mais en fait, c'est une photo qui a été aussi détournée par la propagande russe et présentée par les autorités russes comme une supposée mise en scène d'une actrice jouant un rôle dans une fausse attaque. Donc l'indécence des autorités russes qui ont utilisé son statut d'influenceuse pour la discréditer et la faire passer pour une actrice donne un peu le vertige. Et par ailleurs, ça a aussi entraîné une vague de harcèlement en ligne contre cette femme. Donc c'est vraiment la double peine. Et d'ailleurs, l'autrice féministe française Fiona Schmidt a commenté cette affaire sur son compte Instagram en expliquant « Si Mariana a été désignée comme étant une menteuse, si le monde entier a adhéré à cette théorie, c'est parce qu'elle est influenceuse beauté, donc doublement futile, donc doublement femme et doublement suspecte. Cette jeune femme est victime de préjugés misogynes moyenâgeux qui la privent de la considération et de l'empathie les plus élémentaires dues à tout être humain. »
Ouais, c'était assez fou, la réaction des autorités russes face à cette photo. On a aussi vu des femmes blessées dans leur lit d'hôpital, tenant leur bébé dans leurs bras, comme sur les photos de la photoreporter Véronique de Vigry. À Kiev, une jeune femme, Olga, qui a 27 ans, a notamment été grièvement blessée à la tête après avoir protégé son bébé des éclats d'un missile qui était tombé sur leur abri. Elle témoigne dans Le Guardian et elle raconte qu'en fait, elle a été blessée à la tête et que son sang coulait et qu'elle croyait que c'était son bébé, mais que c'était le sien. Donc, elle a pu s'en sortir et protéger son enfant. On peut aussi évoquer la question épineuse en fait de la GPA, justement, particulièrement en ce moment, et du sort des mères porteuses qui s'est posée puisque des familles occidentales, souvent, font des GPA en Ukraine, où c'est légal et autorisé pour des clients étrangers. Mais cependant, depuis que l'invasion russe a commencé, des enfants nés de ces mères porteuses n'ont pas pu être recueillis par leur nouvelle famille et sont bloqués en Ukraine. Et à Kiev, il y a même un bunker dans le sous-sol d'un immeuble avec ces nouveau-nés qui sont sans parents ni nationalité. Et d'ailleurs, notre consoeur Margot Ben, qui est sur place, a fait un reportage sur ce sujet pour Le Figaro. Et au tout début de la guerre, on peut dire qu'on a quand même vu notamment des ressortissants français qui sont venus chercher leurs enfants nés par GPA. C'était un petit peu perturbant, mais en tout cas, ça a créé des situations complexes d'un point de vue administratif. Et il y a eu des scènes qu'on a vues à la télé, des scènes d'adieu déchirantes avec les mères porteuses. Après, on a aussi vu des reportages qui m'ont paru un petit peu dérangeants, où on voyait des ressortissants français se comporter un peu en touristes et exiger d'être évacués vers la Pologne une fois qu'ils avaient eu leur bébé. Donc je trouvais que c'était un petit peu perturbant.
Et alors, au-delà de cette assignation un peu systématique des femmes à la maternité, on peut dire que la résistance civile s'organise en Ukraine avec les femmes à l'arrière-front qui soutiennent l'effort de guerre, par exemple, en cousant des tissus de camouflage, en gérant des stocks de médicaments, en soudant du métal pour créer des obstacles aux chars russes sur les routes. Elles font aussi partie de ceux qui soignent les blessés, qui donnent leur sang, qui organisent l'acheminement de matériel militaire, de médicaments et d'aide humanitaire. D'ailleurs, on peut lire tout un tas de témoignages à ce sujet dans le magazine Elle. Et on a aussi vu des femmes de tous âges confectionner des repas en groupe dans les sous-sols, comme dans ce reportage de Camille Courcy dans Brut.
En fait, on dort partout parce qu'on est 12. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de choses, mais on est contente parce que d'abord, on fait quelque chose tous ensemble, on n'est pas seul. Tu deviens fou, en fait. Là, on est dans une action et on est utile, donc c'est très important pour garder la motivation aussi en aide. C'est pas possible d'amener la nourriture de l'extérieur. Kiev, il est, comme vous savez, bombardé, attaqué tout le temps. C'est très, très dangereux. Tout le monde a pris ce qu'ils ont eu chez eux. Mais c'est pas assez pour tout le monde qui sont dans tous les abris. Et en fait, aussi dans les hôpitaux, il n'y a pas de nourriture pour tout le monde. Les militaires qui sont toujours quelque part dehors, bon, c'est compliqué.
Côté Russie, on peut souligner que la contestation de la guerre a été portée par des figures féminines. On pense notamment à Yelena Osipova. C'est cette activiste et militante russe de 76 ans qui a vécu le siège de Leningrad quand elle était bébé et qui a été arrêtée alors qu'elle manifestait contre la guerre à Saint-Pétersbourg. Donc il y a eu cette vidéo virale où on la voit tenant une pancarte dans la rue en protestation à l'invasion russe et on la voit se faire arrêter par tout un tas de policiers. Et cette vidéo est un peu devenue une sorte de symbole de la répression répression par le pouvoir russe qui ne tolère aucune contradiction.
Oui, on pense aussi à Marina Ovsianikova, qui est une journaliste russe qui a surgi en plein milieu du journal télévisé le plus regardé de Russie avec une pancarte critiquant l'invasion russe en Ukraine et dénonçant la propagande des médias contrôlés par le pouvoir. Elle a été arrêtée brièvement et elle a été condamnée dans la foulée à une simple amende avant d'être relâchée. Elle risque encore des poursuites parce que ce type d'action est passible de lourdes peines de prison en raison d'une récente loi réprimant, je cite, toute fausse information sur l'armée russe. Mais en tout cas, pour l'instant, elle est libre et ça aurait été vraiment un très mauvais bad buzz pour la Russie.
Mais c'était courageux de sa part en tout cas.
Eh bien, c'est ce que je dis, c'est la guerre en Ukraine. C'est cette guerre qui est devenue le point de non-retour et le facteur déclencheur. Les gens ne pensaient même pas que cela allait se produire, que c'était possible. Le 24 février, j'ai perdu le sommeil, j'ai perdu absolument tous les repères dans ma vie. Je ne pouvais pas manger et j'ai compris que je ne pouvais pas garder le silence.
Alors, cette guerre pose aussi la question des femmes sur le front, on y vient. Comme on l'a dit souvent, les corps féminins ont été perçus comme n'étant pas légitimes à se battre, contrairement aux hommes. D'ailleurs, on peut souligner qu'en Ukraine, actuellement, les hommes de 18 à 60 ans sont obligés de rester dans le pays pour aider la force militaire, en combattant ou en rejoignant la défense territoriale. Les femmes n'ont pas cette obligation et beaucoup ont pris la voie de l'exil avec leurs enfants, mais il y en a beaucoup qui sont restés.
Oui, donc on voit qu'il y a là une forme de naturalisation aussi des compétences militaires. Pour autant, donc certaines ont tout de même décidé de prendre les armes. On a aussi vu d'ailleurs des photos, des vidéos de femmes parfois très jeunes s'entraîner au tir, faire des patrouilles pour repérer d'éventuels infiltrés russes, ou bien tenir des checkpoints, organiser des unités de résistance ou des brigades de soutien, bref, se préparer au combat. Et donc certaines ont rejoint l'armée, ou bien elles étaient déjà réservistes ou soldates, et d'autres se sont enrôlées dans la défense territoriale civile. Pour dire un mot justement du cadre légal de l'armée ukrainienne, il faut savoir déjà que du côté russe, il y avait déjà des femmes dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale, donc ça remonte vraiment à très loin. Par contre, c'est pas du tout le cas du côté de l'armée ukrainienne, puisque les femmes militaires ont fait du forcing pour être acceptées dans l'armée. Aujourd'hui, elles forment environ 20% des forces. Il faut savoir que lors de la guerre dans le Donbass en 2014, beaucoup de femmes ont défendu le territoire en tant que sniper ou en tant qu'infirmière, mais bien souvent, leurs efforts n'ont pas été reconnus puisqu'elles n'avaient pas, à l'époque, le droit d'être dans l'armée. C'est seulement en 2016 qu'elles ont officiellement été acceptées dans ces rangs, donc autant dire que c'était hier. Et ça, c'est en partie grâce à la diffusion d'un documentaire qui s'appelle Bataillon Invisible, qui a fait le portrait de ces femmes qui s'étaient engagées de manière bénévole et qui se sont ensuite retrouvées en première ligne.
Oui, et d'ailleurs, dans Le Monde, la sociologue Yulia Shukan livre une analyse de ce sujet. Elle explique effectivement, aujourd'hui, il existe donc 23% de femmes dans l'armée ukrainienne et que, en fait, tout cela est assez récent et ça vient notamment de leur mobilisation qui a commencé dès le mouvement protestataire de Maïdan en 2013-2014, puis au début de la guerre dans le Donbass. Et en fait, c'est dans un contexte de forte mobilisation citoyenne. Finalement, les Ukrainiens ont une certaine tradition de la résistance, si on peut dire, et les femmes ont rejoint des bataillons d'engagés volontaires à ce moment-là. Et parmi certaines figures, on peut citer Olena Bilozerska, qui est devenue l'un des visages féminins de l'armée ukrainienne et qui se bat dans son pays depuis 2014, justement.
Je pense que dans quelques jours, je me battrai en première ligne. C'est ce que j'espère en tout cas. Car c'est mon pays, c'est ma terre, je veux la défendre. Je suis obligée de la défendre. J'ai suffisamment d'expérience de combat et je pense que chaque citoyen ukrainien qui est capable de tenir une arme doit en prendre une et aller se battre.
On peut peut-être dire un mot aussi des images, puisque c'est une guerre qui se joue au niveau de la communication, c'est ce que disent beaucoup d'analystes. On voit qu'il y a une exaltation des femmes qui vont combattre, qui sont censées un petit peu représenter l'esprit de liberté d'un peuple. Et il y a une espèce de symbolique, en fait, de la résistance à travers ces images. D'ailleurs, c'est pas toujours des images qui datent, en fait, d'aujourd'hui. Par exemple, il y a sur Instagram la Miss Ukraine 2015 Anastasia Lena qui a posé avec une arme. Donc, c'est une photo qui date d'avant l'invasion et ce n'est pas une vraie arme, mais en tout cas, ça illustre ce mouvement symbolique qui se passe aussi sur les images et qui renvoie à une fierté nationale, une fierté pour les femmes guerrières.
En tout cas, toute cette exaltation n'empêche pas qu'elles aient pu être maltraitées par l'institution militaire. Effectivement, et comme un peu partout, l'armée reste très segmentée. Certains postes ne sont toujours pas accessibles et il y a toujours du harcèlement sexuel. Pour prendre un exemple, en 2020, les femmes soldates ont demandé un changement des uniformes dans l'armée pour qu'on leur donne autre chose que le slip d'usage qui étaient données à tous les soldats. Et en échange, on leur a proposé des culottes roses.
Ça, c'est fou.
Voilà. Et un autre exemple, pour fêter les 30 ans de l'indépendance de l'Ukraine, l'armée a fait parader des militaires, hommes et femmes. Et certaines de ces militaires ont dû défiler en talons. Et donc, c'est une image qui a fait beaucoup jaser sur les internets. En tout cas, depuis récemment, c'est-à-dire depuis décembre 2021, face à l'arrivée imminente des forces russes massées aux frontières, le recrutement dans l'armée a été élargi à d'autres professions comme les bibliothécaires, les journalistes, les psys, etc.
On peut parler aussi du film Inner Wars de la réalisatrice ukrainienne Masha Kondakova. Donc c'est un documentaire sur les femmes soldates dans la région du Donbass où la guerre a commencé en 2014 et qui ont elles-mêmes été longtemps méprisées par l'institution. Et là, on découvre qu'elles sont mal payées, obligées parfois de se former dans des formations qui servent pas à grand chose, où en fait on se rend compte qu'elles font de la représentation et où on va par exemple leur offrir des fleurs, donc ça ne sert pas à grand chose. Elles sont peu accompagnées quand elles sont blessées sur le front. On y voit notamment une femme vétérante de guerre qui est devenue handicapée après avoir marché sur une mine, qui est en fauteuil roulant, et elle explique qu'elle n'a quasiment pas d'aide de la part de l'État. Donc ce film montre les conditions d'exercice de ces femmes militaires qui, avant même les évolutions récentes, en fait étaient aussi courageuses que les hommes et se battent sur la ligne de front, mais n'ont pas bénéficié de la même reconnaissance.
Encore un double standard. Et alors, il y en a un autre dont on peut parler, c'est du côté de l'exode des femmes qui sont en fuite en ce moment. On a vu beaucoup de personnes témoigner d'agressions racistes ayant lieu au moment de monter dans les trains en Ukraine, puis aux différentes frontières, aux frontières polonaises ou roumaines par exemple. Ces histoires ont mis en lumière un autre double standard raciste, donc en ce qui concerne la perception des personnes réfugiées et la différence de traitement entre les personnes blanches et les personnes racisées. Ça a été le cas notamment pour une étudiante comorienne qui s'appelle Moana Fatima Hijabou, qui vivait à Kiev depuis 3 ans lorsqu'elle a fui le pays, et elle a témoigné chez Combini pour expliquer que les personnes noires ont été parfois interdites de passer, tandis que les Ukrainiens et Ukrainiennes blancs et blanches étaient quant à eux prioritaires.
Lorsqu'on est arrivé à la frontière, il y a eu beaucoup de monde là-bas. Ils prenaient que les Ukrainiens. Et au début, ils disaient les femmes et les enfants. Puis après, ils ont commencé à prendre que les Ukrainiens mélangés, femmes, enfants et hommes. Du coup, ils ont dit, vous les Noirs, vous patientez un peu là-bas. C'est le racisme qui était là, vraiment.
Ouais, c'était extrêmement choquant, ces informations. On peut également parler d'autres discriminations en parlant du sort des personnes LGBTQIA+. On peut dire que la guerre et l'exil posent cette question justement des discriminations qui sont d'autant plus dangereuses dans une situation qui est celle de vie ou de mort, en tout cas une situation extrêmement critique. On peut parler notamment de la situation des personnes trans. D'ailleurs, selon un article de Mediapart, plus de 200 femmes trans ukrainiennes ont été refoulées aux frontières à cause d'une mention de genre homme sur leur carte d'identité, qui n'était pas mise à jour à cause d'une procédure qui est souvent complexe, et elles sont alors piégées dans l'Ukraine en guerre.
Oui, on espère qu'on aura des nouvelles de toutes ces femmes. Et du côté des travailleuses du sexe ukrainiennes, celles-ci ont également documenté leur vécu de la guerre sur certaines de leurs plateformes, comme OnlyFans, ou sur les plateformes de Camgirls, qui permettent à l'origine de vendre des contenus souvent érotiques. Et donc certaines ont détourné cet usage et s'en sont servies pour alerter leur communauté sur la situation de la guerre, et donc ça a permis à certaines aussi de recueillir des dons d'argent en soutien.
Et on peut à présent parler de la question des violences sexuelles et des viols comme armes de guerre, puisque la guerre pose bien sûr cette question, et celle de la possible exploitation sexuelle des femmes. D'ailleurs, on a encore peu d'informations sur le sujet, mais le risque que des femmes ukrainiennes soient violentées pour humilier et terroriser les populations dans leur ensemble est dans les esprits actuellement, notamment des gens qui connaissent ce sujet, et on peut souligner que le rapport annuel du Comité international de la Croix-Rouge qui est paru en 2015, la violence sexuelle est une des violations les plus courantes que subissent les femmes en période de conflit armé. Et d'ailleurs, selon ce rapport, la prévalence de la violence sexuelle lors de ces conflits a longtemps été sous-estimée. Et c'est surtout grâce à une couverture médiatique récente qu'elle a été reconnue comme un phénomène largement répandu.
Oui, donc tu le disais, en vérité, pour l'instant, il est assez difficile d'établir des chiffres fiables. On a néanmoins une information qui nous vient de 4 députés ukrainiennes qui se sont exprimées à la Chambre des communes britanniques dans le cadre d'une rencontre avec le Premier ministre Boris Johnson. Donc ces 4 députés, c'est Lesia Vasilenko, Maria Mezentseva, Alona Shkroum et Olena Komenk. Et selon elles, des femmes sexagénaires seraient mortes en n'ayant pas pu fuir les banlieues de Kiev que sont Boucha et Irpin. Et ces femmes auraient été violées par des soldats russes, puis tuées, même pendues pour certaines, tandis que d'autres se seraient suicidées. Et donc selon ces des députés qui dénoncent ces exactions. Le président Vladimir Poutine aurait changé de stratégie, ce sont leurs mots, pour targeter les groupes les plus vulnérables de femmes et d'enfants. La plupart de ces victimes seraient donc exécutées après avoir été violées ou bien se suicideraient. Le problème principal étant que les victimes et leurs familles n'ont souvent pas la force ou la capacité de dénoncer publiquement ces faits. Voilà, donc on en apprendra sans doute davantage par la suite.
Oui, d'ailleurs, il faut préciser que ces informations demandent quand même à être clarifiées parce qu'on n'a peut-être pas encore assez de recul et de sources fiables sur le sujet. Mais en tout cas, on risque d'en entendre parler. On peut dire aussi que l'UNESCO s'est intéressée aux violences sexuelles en temps de guerre dans les années 90, notamment, après la guerre en ex-Yougoslavie. Et dans son rapport, l'ONG explique que les enquêtes conduites dans cette zone géographique ont soulevé la question de savoir si les viols intervenus au cours des hostilités étaient un sous-produit de la guerre, entre guillemets. Mais il a été constaté, en ce qui concerne spécialement les attaques serbes contre les localités et villages musulmans, que les viols avaient revêtu un caractère systématique, qu'ils avaient été commis sur ordre des autorités supérieures et sous leur supervision. Ils avaient ainsi été utilisés comme une arme de guerre qui visait à contraindre les habitants à quitter leur foyer. Et ça s'inscrivait clairement dans le cadre d'une stratégie expansionniste. Et d'ailleurs, le viol collectif aura ainsi été partie intégrante de la politique de purification ethnique, entre guillemets, conduite par les forces serbes en Bosnie-Herzégovine. Donc d'après ce rapport de l'UNESCO. Je crois que c'est un peu un des premiers moments où on a vraiment conscientisé la question du viol comme arme de guerre.
Oui, et où ça répond aussi à certains critères légaux dans un cadre judiciaire qui permettra ensuite de juger les personnes incriminées. Il y a aussi la question du viol comme arme de génocide. Là, c'est une question qui s'est posée au Rwanda, où au moins 250 000 femmes tutsies ont été violées, et sans doute beaucoup plus en réalité. On rappelle que c'est un conflit qui a eu lieu en partie avec la complicité de la France, on le sait aujourd'hui. Évidemment, beaucoup d'hommes ont été impliqués et il y a notamment une femme en particulier, une femme Hutu appelée Pauline Nyiramasuhuko, qui était à l'époque ministre de la famille et de la promotion féminine, qui a été à l'initiative d'un massacre dans un stade où des milliers de personnes ont été assassinées. Ça, c'est Courrier International qui nous le rapporte. C'était un 25 avril, des milliers de Tutsis se rendirent dans ce stade. C'était un piège au lieu de trouver nourriture et abri, les réfugiés furent encerclés par les Interahamwe, de violents maraudeurs Hutus dont le nom signifie « ceux qui attaquent ensemble ». Selon un témoin, cette ministre, qui avait à l'époque 48 ans, supervisait la scène, elle encourageait les maraudeurs et donnait des ordres en ces termes. « Avant de tuer les femmes, vous devez les violer ». Ça, c'est un homme qui a confessé sa participation au massacre qui le raconte. Des femmes Tutsis furent alors sélectionnées parmi la foule du stade et emmenées dans les fourrés pour être violées. Sur le stade, la ministre agitait les bras et observaient sans rien dire les maraudeurs qui mitraillaient les réfugiés et leur lançaient des grenades. Les Hutus achevèrent les survivants à la machette. Cela dura une heure et se termina à midi. Il faut savoir, heureusement d'ailleurs, que cette femme a été finalement condamnée en 2011, notamment pour génocide, crime contre l'humanité et aussi incitation au viol de masse, ce qui est une qualification légale qui n'existait pas auparavant.
Et on peut dire que les travaux de la philosophe Sarah Clark Miller ont fait reconnaître ces crimes en tant que partie intégrante du processus génocidaire et qu'ils ont participé à définir le viol comme une arme de génocide. Comme ressource pour parler des violences sexuelles en temps de guerre, on peut citer le livre collectif Impunité Zéro. C'est un livre auquel a participé notre chroniqueuse Anne-Laure Pinault parmi d'autres journalistes. Alors ça parle notamment de viols d'enfants par des militaires français en Centrafrique, d'agressions sexuelles comme méthode de torture de la CIA, de jeunes filles piquées aux hormones par le régime syrien, donc de beaucoup de choses très difficiles. Et dans le Donbass, il y a une partie qui est documentée par la journaliste Ilione Schultz avec Marie-Alix Détry. Elle explique que la guerre en Ukraine a fait près de 10 000 morts et plus de 20 000 blessés. Donc là, on parle de la guerre qui a commencé en 2014, donc c'était avant les événements actuels. Mais elles écrivent qu'un chiffre noir demeure, celui des victimes de violences sexuelles commises par les forces séparatistes et ukrainiennes qui sont survenues entre 2014 et 2015 au pic du conflit. Des viols, des mutilations et d'autres humiliations sexuelles se sont installés dans le secret des centres de détention clandestins et des bases militaires de fortune. Donc, il y a un rapport à ce sujet qui s'appelle « Douleur silencieuse » publié par une coalition d'ONG qui s'appelle « Justice pour la paix dans le Donbass ». Et d'ailleurs, c'est une des rares organisations à s'être penchée sur la question. Mais en tout cas, dans ce rapport, un tiers des interviewés, essentiellement des civils et des soldats détenus, ont mentionné des faits de violence sexuelle en disant que c'était très présent à des niveaux insupportables. Pour autant, cette violence demeure peu signalée et elle est négligée par les autorités. passer. Et donc, cette violence a parfois atteint des niveaux extrêmes, puisque les auteurs de ce rapport ont recueilli le témoignage de deux femmes dont la poitrine a été transpercée à l'aide d'un tournevis et celui d'un homme violé avec une perceuse. Donc, c'est vraiment horrible. En plus, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été très médiatisé à l'époque. Il y a aussi eu des menaces de la nudité forcée, de l'électrocution des organes génitaux, vraiment une organisation de la terreur avec des mutilations, des viols dans cette période de guerre. Et donc, d'après l'enquête de ces journalistes de Impunité Zéro et les rapports qu'elles ont lus, ces violences se déroulent souvent dans des lieux de détention irréguliers comme des anciennes prisons ou des bâtiments militaires ou administratifs, des maisons ou des usines réquisitionnées, mais aussi dans des écoles et des caves. Donc voilà, c'est une réalité en fait qui était déjà là avant même les événements actuels.
Oui, c'est intéressant de voir que ça ne se fait pas par exemple au front, comme on pourrait le croire, mais au contraire dans certaines zones qui ne sont pas du tout encadrées. Évidemment, les conflits armés posent la question des femmes journalistes et du journalisme de guerre. On s'est beaucoup demandé si les femmes reporters produisaient des reportages plus humains. En tout cas, ce qui est certain, c'est que grâce à elles, on est passé du champ de bataille aux arrière-postes, aux villages, aux civils, donc on s'est aussi intéressé à d'autres questions. Sauf que le reportage de guerre, évidemment, a longtemps été et reste encore en partie un précaré masculin, avec l'image très archétypale du reporter de guerre sans peur, sans limite. On se souvient quand même que des pionnières du genre, comme la journaliste Martha Gellhorn, ont même dû se cacher sur des bateaux médicaux parce qu'on leur avait interdit de couvrir le débarquement à l'époque. Donc on peut dire que ce conflit, c'est aussi une guerre d'images qui se joue d'ailleurs, à tel point que ces images ne sont tout simplement pas montrées en Russie. Et dans l'iconographie de guerre, les femmes sont bien souvent présentées comme étant un symbole de paix et peut-être même une présence civilisatrice lorsqu'elles ne sont pas tout simplement des figures de victimes, donc avec une certaine forme de naturalisation, de dramatisation. On pense à cette photo devenue culte de la jeune fille portant une fleur lors d'une manifestation à Washington. Ça, c'était contre la guerre du Vietnam en 1967. On pense aussi à cette image d'une petite fille brûlée au napalm. Ça, c'était aussi à la même époque. Ou encore à l'Afghane aux yeux verts. C'est un cliché qui a été pris par Steve McCurry dans un camp de réfugiés au Pakistan en 1984. Et là, ces jours-ci, on a cette image très frappante d'une femme âgée défiant les militaires russes à Kherson, ou encore de cette autre dame à Guenichesk qui a été filmée donnant des graines de tournesol à un soldat russe pour, selon elle, qu'elle puisse pousser à sa mort.
Oui, et d'ailleurs, sur la question des représentations des femmes, on peut aussi mentionner l'exaltation de la figure de la Peshmerga pendant le conflit contre Daesh en Irak et en Syrie notamment. Du coup, à l'époque, on se souvient que les médias ont beaucoup parlé de cette figure de la combattante Peshmerga en mettant en avant son statut de soldate et sa beauté, ou en tout cas sa féminité supposée, qui passe par des artefacts comme du maquillage ou du vernis à ongles. Ça a été très souligné, je me souviens, à l'époque. Alors que la réalité sur le terrain est un peu plus nuancée. D'ailleurs, notre consoeur Lorraine Descartes a travaillé sur le sujet. Elle a publié une analyse pour Mediapart sur cette image d'Épinal qui cache une toute autre réalité, puisque si ces femmes étaient acceptées dans les groupes de combattants, elles étaient aussi victimes de violences. Et elle décrit que l'image de la combattante kurde est devenue l'icône bankable de la lutte contre l'État islamique.
C'est ça, exotisée, même au front.
Exactement. Mais que derrière ce cliché se trouve une réalité bien plus sombre. Mutilation, mariage forcé, abandon, etc. On va à présent écouter Margot Ben, qui est grand reporter pour Le Figaro et qui se trouve actuellement en Ukraine. Elle était récemment à Kharkiv et à Kyiv. Et elle va nous parler des Ukrainiennes qu'elle a rencontrées sur le terrain et des observations qu'elle a pu faire sur ces femmes.
Il y avait par exemple Anna, 24 ans. Elle était en train de poursuivre des études de médecine quand la guerre a éclaté et elle a décidé immédiatement de s'engager dans la défense territoriale. Anna, qui était en fait une fan des arts martiaux qu'elle pratiquait, son père était dans l'armée, son petit ami s'était aussi engagé comme elle dans la défense territoriale, elle s'entraînait avec lui parfois, elle faisait du sport, elle s'entraînait aux arts martiaux. J'ai aussi rencontré une jeune femme, elle aussi, de 24 ans, qui elle n'a pas pris les armes, mais qui s'occupe, qui est l'une des responsables d'un collectif qui organisait avant la guerre des fêtes un peu underground, un espace d'art et d'expression alternative alternatifs, etc., etc. Et en fait, leur espèce de compound s'est transformé en abri où non seulement ils continuent à faire de l'art, à jouer de la musique, etc., etc., mais aussi à fabriquer du matériel qu'ils distribuent ensuite à l'armée, aux membres de la force territoriale. C'est-à-dire que, par exemple, ils collectent du métal pour ensuite fabriquer des gilets pare-balles qu'ils distribuent aux membres de la défense territoriale. Ils font toutes sortes de choses. Et en fait, cette toute jeune femme qui, elle aussi, paraissait toute jeune, paraissait être encore adolescente, était la responsable ou l'une des principales responsables de cet espace artistique alternatif devenu une sorte de base arrière de l'armée et de la défense territoriale. Il y avait aussi Victoria, un checkpoint assez avancé à 2 km des positions russes à l'extérieur de la ville de Kharkiv, à l'est, et qui tenait un checkpoint qui, elle aussi, avait décoré son arme. Elle recevait aussi des personnes qui étaient accusées d'être des informateurs ou des saboteurs russes et qui étaient amenées parfois morts, parfois vivants, capturées au checkpoint. Et ensuite, elle les remettait aux autorités ukrainiennes. Voilà, donc elle avait pas mal de responsabilités et puis elle était parfaitement intégrée à son bataillon.
Merci pour ce témoignage précieux. Alors, qu'en est-il de notre expérience ? Comment est-ce que tu vis à distance ce conflit ?
Bah écoute, moi je regarde beaucoup de photos, notamment sur Instagram, je suis beaucoup les photoreporters, notamment la photoreporter Laurence G, qui a pris des photos assez incroyables. Sinon, pour parler plus généralement du sujet de la guerre et des violences contre les femmes, moi j'avais été très marquée à l'époque par les articles de Annick Cojan pour Le Monde sur le viol comme arme de guerre en Syrie. Elle avait fait une enquête qui décrivait vraiment mais des atrocités, des viols collectifs, des viols avec des bâtons électriques, etc., devant des familles de victimes. Et donc, elle rapportait à l'époque que le phénomène était vraiment très présent en Syrie et que les femmes étaient visées en tant que telles par les snipers. Donc, j'avais été très marquée par ces articles-là qui avaient été faits sur la Syrie et également par son livre qui, cette fois, portait sur la situation en Libye et sur les viols systématiques commis par Kadhafi. Donc, c'est le livre qui s'appelle « Les proies dans le harem de Kadhafi », une enquête édifiante dans laquelle elle racontait comment le dictateur libyen allait dans des écoles pour chercher des esclaves sexuels et il a vraisemblablement violé des centaines de femmes, apparemment également des hommes, et il a aussi séquestré des femmes pour en faire ses esclaves. Ce livre m'avait énormément marqué.
Écoute, on l'ajoute à notre liste de lecture. Effectivement, je trouve que ce qui est intéressant dans cette question-là des violences sexuelles en temps de guerre, c'est la manière dont le corps féminin finit par incarner, personnifier la nation, et donc pour affaiblir un pays, il faudrait d'abord passer sur le corps des femmes. Et c'était déjà le cas, évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale. On se souvient que la sexualité des femmes françaises était un enjeu national, notamment avec les femmes tondues, accusées de collaboration horizontale. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé une série de podcasts des Pieds sur Terre, qui suit notamment une Ukrainienne vivant en Champagne et qui est partie en voiture chercher ses parents à Odessa. Et donc, elle raconte son périple sur la route et c'est très impressionnant.
Ouais, c'est frappant.
Il y a également une série à lire sur le site du New York Times avec des histoires d'exode. Voilà, je vous invite à la lire, c'est en anglais et évidemment, comme toi, j'ai été très choquée par le racisme qui a lieu aux frontières, c'est-à-dire à ces discriminations qui persistent voire qui empirent en temps de conflit et aux discussions auxquelles ça a donné lieu sur la question de l'accueil des réfugiés qui seraient blancs et donc plus proches de nous. Voilà.
C'est terrible.
Le moment pop culture pop. Culture.
Alors, qu'est-ce qu'il en est à présent des représentations dans la pop culture ?
Eh bien, sans surprise, le cinéma a lui aussi invisibilisé la place active des femmes en temps de guerre en les reléguant bien souvent à l'arrière. Un cas assez emblématique, c'est le film Le Patient Anglais, dans lequel Juliette Binoche joue une infirmière qui s'occupe amoureusement d'un soldat. Donc là, encore une fois, on est en plein dans le Caire. C'est montré comme étant très romantique.
They found him near a plane crash in the Sahara.
Raya set himself to keep me alive.
Because I'm a nurse.
On rappelle que accoler dans la fiction une histoire d'amour ou un homme à un destin féminin est souvent une manière de minimiser son travail ou sa vie. Voilà, donc ne le
ouais,
faites pas.
C'est vrai. On peut aussi parler du film d'Angelina Jolie, Au pays du sang et du miel, qui est sorti en 2011. Lui, pour le coup, j'en ai plutôt un bon souvenir. Ça raconte le siège de Sarajevo dans les années 90 et l'histoire d'un couple formé par un Serbe qui se retrouve gardien d'un camp de concentration et d'une Bosniaque qui est prisonnière de ce même camp. Dans mon souvenir, c'est assez poignant et ça aborde justement la question du viol comme arme de guerre.
Qui l'eût cru ? Un autre film auquel je pense, c'est À armes égales, qui est sorti en 97, G.I. Jane en anglais, un film de notre ami Ridley Scott, dans lequel Demi Moore joue une militaire, à savoir la première femme à intégrer les rangs des Navy Seals, donc c'est une unité d'élite dans l'armée. Il y a notamment une scène culte dans laquelle Demi Moore se rase la tête. C'est un film qui est assez basique hein, sur la binarité des sexes, qui est féministe en apparence, mais qui au fond ne comprend pas réellement les enjeux de la construction sociale du genre. Mais en tout cas, voilà, c'est un des rares films sur une femme soldate.
Près de 75% des postes militaires sont aujourd'hui encore réservés aux hommes. Et il est grand temps que ça change.
Alors, quel est ce programme ? Unité d'élite. 60% ne tiennent pas un mois.
Une femme tiendrait une semaine.
On peut aussi mentionner des tentatives assez ratées, on va dire, de la part de réalisatrices françaises de faire des fictions sur les femmes combattantes yézidis. On en parlait tout à l'heure. Donc il y a par exemple Sœurs d'armes de Caroline Fourest avec Camélia Jordana.
Malaise.
Qui apparemment est vraiment très ratée, je ne l'ai pas vue. Par contre, j'ai vu Les filles du soleil de Eva Husson, qui je pense est d'un meilleur niveau, avec Golshifteh Farahani et Emmanuel Berko, mais c'était pas non plus passionnant, quoi.
Oui, peut-être que c'est aussi des productions qui pâtissent d'un manque de moyens en France. Du côté des États-Unis, il y a aussi Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow, dans lequel Jessica Chastain incarne l'agente en charge à la CIA de traquer Oussama Ben Laden au Pakistan. Malheureusement, on se souvient qu'à la sortie du film, il y a eu une polémique, ce qui est assez normal, sur l'usage de la torture et sa justification dans le film. Par ailleurs, on peut vous recommander de lire Svetlana Alexievitch, qui est une autrice biélorusse, qui a notamment écrit ce pavé, ce chef-d'œuvre qui s'appelle « La fin de l'homme rouge » sur la chute de l'Union soviétique. Et il y a également un recueil qui s'appelle « La guerre n'a pas un visage de femme » qui est un recueil de témoignages de femmes qui se sont engagées dans l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, ça correspond bien à notre sujet de la semaine. Si vous vous intéressez au cinéma ukrainien, sachez que récemment est sorti « Olga » de Eli Grapp, qui est un film sur une jeune gymnaste ukrainienne. Et en ce moment, à Paris, il y a une exposition sur les femmes photographes de guerre et c'est au musée de la Libération.
Les recommandations culturelles
de Quoi de Meuf.
Alors moi, cette semaine, je recommande le film Entre les vagues de la réalisatrice Anaïs Volpe avec deux actrices qui sont géniales, qui sont Deborah Lukumuena et Suela Yacoub. C'est l'histoire d'une amitié entre deux actrices sur fond d'une maladie. C'est très touchant, même si le film n'est pas sans défaut. C'est vraiment une histoire d'amitié très vibrante que j'ai trouvée vraiment touchante.
J'ai 27 ans, j'ai dû bosser dans 12 cafés et... Ah oui, zéro film, zéro pièce de théâtre.
J'ai toujours voulu être une star. I want to be a star. Moon star.
Et toi, Clémentine ?
Alors moi, de mon côté, je recommande une bande dessinée qui s'appelle Fraîche. Elle nous vient de Marguerite Boutrolle et c'est aux éditions La Boîte à Bulles. Et ça raconte donc l'adolescence d'une jeune fille qui est un peu perdue. Et c'est un âge auquel on fait tout pour plaire aux autres. Donc je sais que c'est une question qui t'intéresse aussi. Voilà, donc je vous invite à la lire. C'est tout pour cette semaine. Vous pouvez retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez aussi nous écrire sur les réseaux sociaux @quademeuf et nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts. Ça nous aide à être référencés. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine. Merci. Salut Pauline.
Salut Clémentine.
Quoi de Meuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Rédaction en chef Clémentine Gallo.
Journaliste chroniqueuse Pauline Verdusier.
Mixage et montage Laurie Galigani. Prise de son Adrien Beccaria à l'arrière-boutique. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Réalisation et coordination Cassandra de Carvalho et Mathilde Jonan.